Cowper, sucker. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cet épisode de Culture Soccer, le podcast. Il est tard le soir, il est 10h30, heure du Québec. Et je suis au micro aujourd'hui, Adi Raphaël. Je suis rejoint par le deuxième rédacteur en chef de Culture Soccer, Anthony de Varenne. Anthony, t'es pas trop fatigué?
Non, ça va. Un peu déçu sur l'élimination, mais tout le monde fier. On va en parler un peu plus tard.
Effectivement, on va en parler. Tu sais quoi? On va commencer par en parler parce que c'est encore frais dans nos têtes. On va commencer par ce match-là. On va commencer par match avant de revenir sur le match entre Orlando et New England. Mais en premier, commençons par ce match-là entre ton équipe de cœur, le Nashville SC, qui jouait aujourd'hui justement face à Columbus, même. Une victoire 2-0 de Columbus dans les prolongations. Déjà, commençons un peu cet affrontement et à parler de ce match-là en tout premier. Nashville venait de faire un gros exploit en éliminant Toronto lors du tour précédent. Déjà, est-ce que tu t'attendais à voir Nashville aussi loin en début d'année? Je sais que tu étais un des plus positifs sur la saison de Nashville SC et nous, on était tous pessimistes, que ce soit Antoine, que ce soit moi, que ce soit Raphaël, tout le monde était pessimiste à voir Nashville. Est-ce que toi, tu t'attendais à les voir aller aussi loin que même quart de finale de la MLS Cup, demi-finale de la conférence S? C'est quand même pas mal, non?
Ouais, non, c'est honnêtement, je pense qu'on a atteint et même surpassé les objectifs. Moi, au début de la saison et même un peu avant, je m'attendais à ce qu'on se batte pour une place en série. Au début, on était censé être à l'ouest, donc je m'attendais que ça soit assez dur, mais je comptais sur une défense solide. Finalement, on est arrivé à l'est. Et non, je suis très fier de ce que Nashville a accompli. Vraiment, Gary Smith est pas arrivé pour impressionner la galerie. Il est arrivé pour être solide. Et je pense que c'est ça qui a mené au succès là, assez précoce de Nashville quand même. Là.
Exact. Mais pense-y d'habitude, quand tu as des expansions pour une année de MLS, la première chose que tu vois quand il y a plus d'un club d'expansion, la première comparaison que tu fais, c'est face à l'autre club d'expansion. Si tu regardes Nashville face à l'autre club d'expansion qui est l'Inter Miami, l'Inter Miami est venu avec ses gros noms, ici une Blaise Matuidi, ici une Gonzalo Higuaín, puis tranquillement pas vite, Nashville montre beaucoup plus de jeux collectifs, une équipe bien rodée, bien soudée, fluide, qui joue avec un système de jeu très spécifique à eux, vraiment un gros bloc défensif, vraiment aller sur la contre-attaque. Et ils le font tellement bien que quand tu regardes un peu la fin de saison de Nashville, sur les 8 derniers matchs de la saison régulière, c'est la deuxième meilleure défense, mais c'est aussi la deuxième meilleure attaque. Donc ça veut dire que oui, ils ont beau être une équipe défensive, mais c'est l'équipe qui marque. Et on l'a vu déjà dès le premier tour des séries, le tour préliminaire des séries, contre Miami, une victoire de 3-0. Puis après, la grosse surprise, la victoire de Nashville contre Toronto, personne s'y attendait. Je pense que s'il y a une personne qui a parié pour Nashville, il a dû se faire un beau petit pactole, n'est-ce pas, Anthony? Hein?
Oui, exactement, vraiment. Je pense que toutes les personnes attendaient de voir Nashville dans les bas-fonds du classement, que ce soit à l'ouest ou à l'est, peu importe. Et non, vraiment, ils ont créé une belle surprise et non, ils ont à être fiers d'eux. Et même ce soir, hein, peut-être ça aurait pu être différent avec un Hannibal Godoy dans l'alignement, mais ça, on peut pas en parler. Reste à voir. Mais
Tu peux pas parler des absents. Il y avait des absents exactement. De marque de l'autre côté, surtout. Hein?
exactement, mais je pense que le plus positif qu'on a joué, c'est qu'il y a beaucoup il y a peu à construire pour la prochaine saison. Je pense que les bases sont là. Et c'est ça, on va les attendre de pied ferme pour la deuxième saison, mais je ne m'attends pas à avoir beaucoup de mouvements. Je m'attends à en avoir quelques-uns, mais tu sais, pas plus que 2-3 selon moi, là.
D'accord, parfait. Ben, en tout cas, ça va être extrêmement intéressant de suivre Nashville en saison 2. Ben, ils affrontaient aujourd'hui, tu l'as dit un peu plus tôt, le Crew de Columbus. Le Crew de Columbus, après un début de saison quand même extrêmement bon, il y a eu comme une grosse période où c'était un peu plus difficile pour Columbus vers le milieu et la fin de saison. On a vu, par exemple, Columbus perdre des matchs quand même. C'est pas des matchs faciles, mais quand même, ils ont perdu un match contre Orlando, ils ont perdu un match face au DC United, et ils ont fait un match nul contre le Dynamo de Houston, même perdu un match contre Cincinnati, perdu contre l'Impact de Montréal. Ça a été difficile vers la fin. Donc, tout le monde pensait que, bon, la fameuse tactique de Caleb Porter, est-ce qu'elle avait des limites? Est-ce que c'était possible que les adversaires aient reçu et réussi à trouver la tactique pour contourner le système de jeu de Caleb Porter? Ben, ça a l'air que pas. Ça a l'air que pas parce que Columbus arrive ici dans ces playoffs-là. Ils battent en premier, lors du premier tour, les New York Red Bulls qui avaient eu un gros regain de forme sur le score de 3 à 2. Columbus se débrouillait très très bien. Mais quand même, c'est quand on regardait un peu cet affrontement avant le coup d'envoi, Anthony, on sentait que Columbus était quand même favori face à Nashville, n'est-ce pas?
Oui, exactement. Et même avec les absences dues au COVID-19, il y avait un total de 6 absences, dont les deux premiers gardiens, si je me trompe pas. Et vraiment, non, ils restaient favoris malgré de nombreuses absences et vraiment, malgré leur fin de saison mitigée, comme tu l'as dit, défaite contre Cincinnati, Houston, DC United, des équipes de bas de classement, vraiment, ils se sont métamorphosés tout d'un coup en battant New York. Et vraiment, là, ce soir contre Nashville, vraiment, c'est l'expérience qui a payé. Donc, non, vraiment, je pense que Caleb Porter avait une idée en tête et il l'a gardée tout au long de la saison et ça porte ses fruits maintenant, là.
Exactement, exactement. Donc, tu parlais un peu des joueurs qui étaient absents pour ce match-là, pour le Crew de Columbus. Donc, en fait, il y avait Eloy Room, le gardien numéro 1, Derrick Etienne Jr., l'ailier haïtien, et les joueurs d'habitude de rotation, Waylon Francis, Sebastian Bellhalter, Miguel Berry et le deuxième ou troisième gardien, John Kempen. Il y avait aussi Vito Vormgoor aussi qui était absent, mais lui, il est absent déjà sur blessure depuis le début de l'année. Donc, c'est quand même beaucoup. Finalement, c'était un total de 7 joueurs qui étaient indisponibles à cause de la COVID-19 dans ce match-là. Mais en tout cas, c'était quand même un match, on s'attendait à beaucoup de choses. On s'attendait à un gros, gros match avec, bien évidemment, on s'attendait à un Nashville défensif, un Columbus offensif, sachant que Columbus a tendance à beaucoup monter, à vraiment libérer des espaces sur les côtés. Et on savait que Nashville, de l'autre côté, allait profiter de ces espaces derrière les deux latéraux, que ce soit Afful et Valenzuela, et ce qui était le cas aujourd'hui. Est-ce que, dans la physionomie du match, avant de rentrer et parler du match en tant que tel, Anthony, est-ce que dans la physionomie du match, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans la physionomie du match?
Ben, comme tu l'as dit, on s'attendait à un Columbus assez offensif dans cette rencontre qui allait prendre le jeu en main. Et moi, j'ai été surpris de voir que Caleb Porter, durant plusieurs moments du match, a utilisé un peu la même médecine que Gary Smith. Le Crew a été très patient et c'est une des raisons pourquoi les 90 premières minutes ont été assez ennuyantes pour plusieurs. Donc vraiment, c'est vraiment ça l'aspect qui m'a le plus surpris de la rencontre, c'est de voir le Crew être autant patient pendant aussi longtemps.
Ouais, effectivement, effectivement. Après, bon, si tu regardes un peu les buts qui sont venus en prolongation, c'est des buts qui sont venus sur transition rapide, hein. Ça a pas été des buts qui ont été construits doucement, lentement. Au contraire, ça a vraiment été des buts qui ont pris, qui ont été marqués très rapidement, là. Vraiment très très rapidement. Donc, comme tu l'as dit, ils ont utilisé, Caleb Porter a utilisé un peu la tactique de Gary Smith en jouant un peu en contre-attaque, même si c'est difficile de jouer en contre-attaque face à Nashville, n'est-ce pas?
Oui, exactement. Avec deux très bons défenseurs. Ben, un qu'on savait, Walker Zimmerman, un autre comme Dave Romney. Peut-être qu'on n'attendait pas aussi bon cette saison, mais non, vraiment, là, c'est une charnière centrale excellente avec un Alistair Johnston qui apprend le métier. C'est sa première année de recrue qui fait quand même assez bien. Donc, non, vraiment, Nashville, on s'attendait que ça allait être très solide et ils ont répondu présent et vraiment, Columbus, chapeau parce que les deux buts qu'ils ont inscrits, là, c'est rare que Nashville ait été surpris autant que ça. Et vraiment, c'est ce chapeau à Zardes, vraiment excellente prolongation pour lui. Là, c'est là qu'on voit l'expérience du buteur MLS. On aime ça chez Culture Soccer de se moquer un peu de Zardes. Mais là,
non, non, c'est toi et Antoine qui avez évoqué les Zardes. Moi, je me moque pas de lui, là.
Non, mais là, je peux plus me moquer. Je peux plus me moquer.
Non, mais si on y pense un peu, Anthony, pensons stats, OK? Pensons statistiques, pensons avec nos têtes. Jazzy Zardes, sur les trois dernières saisons, si jamais tu additionnes les trois dernières saisons, Jazzy Zardes a marqué et le meilleur buteur américain en MLS. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, Jazzy Zardes a marqué approximativement un but aux deux matchs. C'est quand même impressionnant, non?
Non, vraiment, Zardes, là, comme tu dis, moi et Anton, on se moquait bien de lui, mais vraiment, c'est un des meilleurs buteurs MLS depuis les... Ben, en fait, depuis qu'il est arrivé au Crew, il s'est métamorphosé. On sentait là que ces derniers temps... Lorsqu'il était avec les LA Galaxy, ça n'allait plus. Mais là, maintenant qu'il est rendu au Crew, depuis son arrivée là, dans l'État de l'Ohio, tout lui réussit. Et vraiment, non, des fois, il y en rate quelques-unes que c'est assez magique, mais j'ai pas le choix de lui lever mon chapeau. Et je pense que malgré les moqueries, on arrivait quand même à le faire assez bien.
Exactement. Bref, en tout cas, Jazzy Zardes à Columbus depuis le début de la saison 2018, donc sa troisième année à Columbus. Il a évolué au début sous Greg Berhalter et maintenant sous Caleb Porter. Et on n'a pas vu beaucoup de changements dans sa production, que ce soit sous l'entraîneur, l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale américaine, Greg Berhalter, ou bien sous Caleb Porter. Ça a été magnifique. Bon, parlons un peu du match avant les prolongations, parce qu'on l'a dit un peu plus tôt, une victoire 2-0 de Columbus sur Nashville en prolongation. Les deux buts sont arrivés en prolongation. Par contre, dans le match, si tu regardes un peu les 60 premières minutes, on a vu une équipe de Nashville qui a eu beaucoup plus d'occasions que Columbus. Et je suis sûr que ton cœur a dû bondir plusieurs fois dans ta poitrine parce que il y a eu plusieurs occasions, surtout ce corner, dont la fameuse transversale de Dax McCarthy. Je suppose que tu y as cru, non, à un moment donné, Anthony, parce que bon, les occasions dangereuses étaient plus du côté de Nashville que du côté de Columbus.
Ouais, exactement. C'est parfaitement décrit. Les 60 premières minutes. Et surtout la première mi-temps, je me sentais un peu comme le match face à Toronto. Quelques occasions, un peu moins que face à Toronto, mais malheureusement, ça ne rentrait pas. En premier, il y a eu une tête de Cadiz, malheureusement, pas assez de puissance. Après ça, il y a eu McCarthy directement sur la barre transversale. Donc, non, j'y ai cru. Mais le Crew, faut leur donner ce qu'il leur est dû vraiment. Si je ne me trompe pas, c'était la meilleure défense dans l'Est cette saison-là. Donc, vraiment, ils ont parfaitement défendu. Et même avec soit le deuxième ou le troisième gardien qui est Turville, ils ont réussi. Donc, vraiment, on sentait le Crew un peu plus serein que Toronto là, en début de semaine.
C'est ça. Bon, le Columbus était la deuxième meilleure défense dans la saison régulière, effectivement, dans l'Est, après Philadelphie. Juste un but encaissé de plus que Philadelphie. Puis juste derrière, en troisième place, c'était Nashville avec un but de plus, donc 22 buts encaissés pour Nashville, 21 pour Columbus, puis 20 pour l'Union de Philadelphie. Oui, effectivement, il y a eu un bon secteur défensif de la part de Columbus. Il faut aussi avouer que, bon, T'as beau dire qu'il y a des absents du côté de Columbus. Oui, Hiller Room a été extraordinaire durant cette saison et pour moi, il mérite le titre de meilleur gardien de l'année. On en avait parlé lors du dernier épisode, il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, l'épisode sur les trophées, les Culture Soccer Awards, donc les trophées qu'on a donnés aux joueurs. Par contre, si tu regardes, en fait, c'est quoi le Columbus Crew? D'habitude. Bah, c'est en défense, tu t'attends à Jonathan Mensah. Sur les côtés, tu t'attends à Harrison Afful et Milton Valenzuela. Au milieu de terrain, les deux milieux défensifs relayeurs, c'était Nagby et Arthur. Et en tant que numéro 10, tu vois Zela Ryan. Tu as sur une des ailes sûrement Pedro Santos et devant Jazzy Zardes. Donc, indépendamment des absences qu'il y a eu, et oui, il y a eu de grosses absences, je suis pas en train de dire que c'était pas de grosses absences, la colonne vertébrale, les joueurs sur lesquels Caleb Porter peut compter étaient là, n'est-ce pas, Anthony?
Ouais, vraiment, non. Columbus, là, c'était une équipe pratiquement complète malgré les 6 absences. Et non, vraiment, Pedro Santos, j'ai aimé qu'est-ce que j'ai vu ce soir. Diaz également. Sur le but de Zardes, c'est lui qui a initié l'action, pardon. Et non, vraiment, là, c'était une très belle équipe du coup, là.
Effectivement. Et bon, passons après maintenant à parler de Nashville. On a mentionné un peu, on a fait nos hommages un peu au début. Pour toi, Anthony, on va parler un peu du futur de Nashville, juste rapidement. J'ai fait une chronique il y a quelques jours sur Culture Soccer en parlant des équipes éliminées. J'ai parlé à ce moment-là de chacune des équipes qui devrait recruter, quel genre de joueurs ils devraient recruter, qui devrait partir et ainsi de suite. Maintenant, comme ça, à chaud, Anthony, j'aimerais avoir ton impression sur cette équipe de Nashville, comment elle pourrait passer à un niveau supérieur l'année prochaine? Quels joueurs sont des joueurs qui, c'est pas grave s'ils s'en vont ou bien il faudrait qu'ils s'en aillent, et quels sont les joueurs que t'aimerais ramener, quel genre de profil t'aimerais avoir? Passe-nous un peu ton bilan de fin d'année sur Nashville, sur l'effectif de Nashville SC.
Ouais, ben premièrement au niveau là du gardien Willis, je le garde, il a fait un très bon job. Les 4 défenseurs, je les garde en très grande majorité. Lovitz a très bien fait, Romney, Zimmerman également. Il y a peut-être du côté de Johnston, mon cœur pense pour Johnston, mais ma tête, je me dis, oui, il a été très bon, mais je pense qu'on pourrait aller encore chercher mieux en latéral droit si on voudrait s'améliorer. Peut-être je le mettrais comme deuxième. Peut-être ça lui mettrait un peu de pression. On l'a vu craquer à quelques moments durant la saison. Il y a eu le carton rouge à Kansas City. Il y a eu un carton jaune aujourd'hui. Donc, on voit que des fois, il peut craquer un peu. Sinon, ce serait peut-être de rajouter un défenseur central dans la rotation. Quelqu'un de peut-être aussi bon que Romney Zimmerman, ça serait parfait. Au milieu, Godoy et McCarthy, j'aime bien. Je pense qu'on a aussi quand même une belle profondeur avec Anunga, Jones, Lagrassa également. Au niveau des attaquants, les milieux offensifs, en tant qu'alliés, Leal et Mool, j'aime bien. Mais je pense qu'il faut vraiment aller chercher quelqu'un qui serait peut-être polyvalent sur les deux côtés pour vraiment rajouter de la profondeur.
Vous avez eu Buana. Est-ce qu'il faut quelqu'un d'autre aussi?
Ben, j'aimerais peut-être quelqu'un d'autre en plus aussi, parce que si jamais il vient avoir une blessure, ça ne me tente pas de me fier sur Akam. Donc, vraiment, peut-être c'est ça, un ailier supplémentaire. Sinon, Mukhtar, je le garde, c'est sûr. Il y a eu un début de saison assez lent, mais il s'est racheté vers la fin de la saison. Et je pense que Derrick Jones est quand même capable de le remplacer en tant que numéro 10. Mais si jamais il y a de l'argent trop, pourquoi pas? C'est peut-être au niveau du buteur que je ferais des changements. Cadiz, oui, il est arrivé vers la fin de la saison, mais j'ai jamais vraiment été impressionné par le joueur. Je sais que c'est un prêt. Ça se peut que Nashville l'achète finalement, mais moi personnellement je serais surpris. Je pense qu'il y a quand même meilleur à aller chercher. Et je pense qu'on a encore une place de joueur désigné. Donc, ça pourrait peut-être une bonne idée, là, surtout quand on a vu que c'était peut-être le point faible de Najee durant la saison en attaque. Donc, s'il y avait une position sur le 11 partant que je devrais changer, absolument, ça serait en termes de buteur. Et vraiment, je mettrais juste Cadiz qui revient pas et je garderais Dan Lady et Rios en tant que doublure.
Parfait, parfait. Ben, je veux juste un peu répondre à tes interrogations. Ben, c'est sûr qu'avec quatre défenseurs centraux, pour Anibaba, tu as Anibaba, tu as Romney, tu as, je pense, Miller et puis Zimmerman en tant que défenseurs centraux, si je me trompe
Miller,
pas.
il est plus comme latéral droit.
Ok, parfait. Donc, ils l'ont ramené comme latéral droit plutôt, mais il est capable de jouer en tant que défenseur central. C'est qui le quatrième défenseur central de votre équipe à Nashville?
C'est Miguel Nazareth, le jeune
Ouais,
Colombien, mais
Nazarit, effectivement.
ouais,
Mais il y a
c'est
aussi
Jack Miles.
celui qui était aujourd'hui défenseur central, c'était et j'ai oublié son nom là. Josh Williams, non pas Josh Williams, pardon. C'était ouais Romney et Zimmerman, c'était les deux défenseurs centraux. Mais est-ce que tu te débarrasserais par exemple de quelqu'un comme Jalil Anibaba, par exemple, pour ramener un autre défenseur? Parce que d'habitude quand tu joues à une défense à quatre, tu vas pas ramener plus que quatre défenseurs centraux. Donc,
Non,
quand
c'est
même, il
ça.
va falloir se débarrasser de quelqu'un. C'est qui? Tu te débarrasserais de qui?
Ouais, je pense que j'irai avec Anibaba. Vraiment, il a jamais su s'imposer dans la rotation. Vraiment, il a joué très rarement avec le club. Je pense que je l'ai vu à seulement peut-être 5 reprises. Je vais juste aller confirmer pour être certain. Oui, c'est ça. Non,
Il a joué 12 fois.
il a débuté 6 rencontres.
Ouais,
Donc,
c'est
un
ça.
peu plus. Mais moi, je ne l'ai pas senti comme étant quelqu'un qui était complémentaire avec ça, Romney ou Zimmerman. Donc, c'est pour ça que ça ne me dérangerait pas de le changer, là.
Ouais, non, je comprends, je comprends. Après, oui, c'est vrai qu'au poste de latéral droit, il y a Justin, il a fait très bien, Justin, et il va apprendre encore. Faudrait ramener peut-être un autre latéral droit, je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, pas de là à mettre complètement Justin sur le banc comme une option B non plus, là. Il faudrait avoir peut-être quelqu'un un peu plus expérimenté, mais un peu diviser les tâches entre les deux, 50% des matchs à chacun, juste pour continuer à développer Alistair Johnson, parce qu'il a vraiment beaucoup de talent, ce jeune Canadien-là de 22 ans. Pour ce qui est du milieu de terrain, tu as parlé de Dax McCarthy, Hannibal Godoy. J'ai beaucoup aimé ces deux joueurs qu'on connaît très bien. C'est fou, il y a eu un tweet de Tom Bogert de la MLS qui a fait un très beau tweet avec lequel je suis complètement d'accord. Il a dit, je pense que toutes les équipes, pensez à toutes les équipes qui ont échangé Dax McCarthy durant sa carrière, que ce soit Dallas, que ce soit DC United, que ce soit les Red Bulls de New York ou que ce soit le Fire de Chicago. Maintenant, ils sont en train de regarder ce match-là et je suis sûr qu'ils sont en train de se maudire tellement c'est un excellent joueur. Et je suis complètement d'accord avec Tom Bogert. C'est tout un joueur, ce Dax McCarthy. J'ai bien aimé Godoy, bien évidemment, mais celui qui m'impressionne, c'est Derrick Jones. J'ai trouvé que c'est un excellent joueur, ce Derrick Jones. Je connaissais pas du tout, et vraiment, il m'a vraiment bien impressionné. Sur les ailes, je suis d'accord avec toi. Il manque peut-être ce joueur. Mills, c'est un bon joueur. Est-ce que c'est un joueur d'impact qui est là, titulaire en tout temps? Non, pour moi, c'est plus un joueur de rotation. Donc, oui, il faudrait quelqu'un à côté. Après, Cadiz, moi, je lui donnerais une chance de plus. Parce que, je te dis, Anthony, et j'aimerais bien que tu rebondisses là-dessus. Ce genre de profil-là, de joueur, d'attaquant de pointe, de tour de contrôle, il fait quand même 1m91, 6 pieds 3. C'est pas des attaquants qui courent les rues. Ça court pas les rues maintenant. Il y a beaucoup d'entraîneurs à travers la planète foot, qui cherche des joueurs de ce profil-là, très grande de taille, pour pouvoir jouer dos au but. Puis moi, je trouve que Cadiz, si je regarde ce match-là, et sur les quelques matchs que j'ai vus de Nashville, je trouve qu'il a fait un bon travail. Après, ça se voit qu'il n'est pas encore complètement assimilé par Nashville, par le collectif de Nashville. Il est arrivé en milieu de saison. J'aimerais le revoir une deuxième saison, et je suis sûr que l'année prochaine, il sera un peu mieux. Est-ce que pour toi, ce profil-là, ça t'intéresse pas parce que c'est quand même un profil très recherché hein, dans la planète foot, ce grand joueur-là qui peut jouer en dos au but, en sorte de tour de contrôle.
Oui, mais c'est surtout le fait que honnêtement, moi, j'aurais peur de prendre le risque parce que vraiment, on a vu que pour Nashville, le gros problème, c'était l'attaque cette saison. Et oui, je serais pas contre qu'il revienne et j'espère qu'il va réussir si c'est le cas. Mais si jamais c'est un flop, Nashville, la saison va être quand même longue, là, parce qu'on a vu qu'au début de saison, on marquait pas souvent. Heureusement que Daniel Rios s'est bien adapté à la MLS et vers la fin de la saison, il était inarrêtable. Mais honnêtement, sans lui, on n'aurait pas pu être aussi haut là, sans Rios. Donc vraiment, oui, je suis pas contre qu'il revienne, mais il faudrait vraiment que Gary Smith soit sûr et certain qu'il va avoir de l'impact dans le jeu.
Ouais, non, c'est sûr qu'il va falloir que Gary Smith y pense vraiment. Mais en tout cas, c'est une très très belle année pour cette équipe de Nashville. Je l'ai dit un peu en off un peu plus tôt. Pour moi, il y a deux dieux dans cette équipe-là. Ben, c'est Walker Zimmerman. Je pense que j'en parle depuis qu'il a quitté l'AFC. J'en ai parlé ici sur le podcast. J'en ai parlé aussi dans le guide. Pour moi, c'est un excellent défenseur central. Et le deuxième dieu, ben, c'est Dax McCarthy. On en a parlé un peu. Et puis celui qui amène un peu de folie un peu au milieu de terrain, les deux qui amènent les folies au milieu de terrain, bah, c'est les deux autres joueurs désignés, Randall Leal et Annie Mukhtar. Vraiment une très très bonne année pour Nashville SC, mais il est temps de leur dire au revoir pour cette année, pour l'année
Ouais.
2020, mais on a hâte de voir 2021, voir ce qui va se passer. Ça va être extrêmement intéressant. De l'autre côté, Columbus, bah, ils continuent leur bout de chemin. C'est une équipe qui surprend de plus en plus et qui va rencontrer le gagnant de ce premier quart de finale qui s'est joué ce matin. Un quart de finale entre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre face à Orlando City SC. Orlando jouait à domicile et finalement a malheureusement plié les chines face aux Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Victoire 3-1 de la Nouvelle-Angleterre. À Orlando même, les Revs nous impressionnent de match en match. C'est toute une autre équipe, Anthony, depuis le retour de Carles Riehl qui était blessé. C'est une autre équipe complètement. Quel joueur? Et est-ce que pour toi, c'est possible? Pour toi, est-ce que tu t'attendais à ce qu'un joueur transforme et métamorphose complètement une équipe? Passant d'une équipe moyenne à une équipe extraordinaire comme les Révolutions de la Nouvelle-Angleterre présentement.
Non, et honnêtement, je dois faire un erratum parce que vraiment, j'ai quand même critiqué assez souvent là, Gustavo Bou et Adam Buxa, ouais, durant la saison. Je trouvais que au prix que les Revs les avaient payés, ils devaient d'être plus présents dans le jeu, d'avoir plus d'impact. Même à certains moments, j'ai été critique à Gil, même s'il n'était pas là souvent. Et vraiment, je tiens à m'excuser à tous les partisans des Revs parce que quand ça compte, les trois répondent présents. Et je pense que c'est ça la beauté des séries, c'est que durant la saison, des joueurs peuvent être un peu plus effacés. Et en playoff, vraiment, ils s'ouvrent. Donc vraiment, je tenais à faire cet erratum.
Ouais, effectivement, il faut faire son mea culpa quand il faut.
Exact.
Et c'est effectivement ce que tu as fait et c'est tout à ton honneur, Anthony. Bon, écoute, moi j'ai été aussi assez sévère envers le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Peut-être pas autant que toi, mais quand même j'ai été sévère. Pour moi, la défense manquait quelque chose. Et te dire très franchement, j'ai beau écouter notre expert de college soccer, Florian Mauger, parfois, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à comprendre combien un joueur de college soccer peut faire une différence. Mais par contre, Henry Kessler, en défense centrale en défense centrale du côté de la Nouvelle-Angleterre, a fait toute la différence. Parce que le gros problème, moi, que je voyais du côté du Révolution de la Nouvelle-Angleterre, c'est qu'il manquait quelque chose en défense. Tu avais Andrew Farrell, qui était d'habitude un latéral droit, qui est replacé en défenseur central et qui est de loin meilleur en tant que défenseur central par rapport à ses prestations en tant que latéral droit. Farrell est très bon, mais il y a toujours eu ce manque à côté de lui. Et Kessler, le jeune drafté, a fait une saison dantesque, mais vraiment une grosse, grosse saison pour Henry Kessler, qui a vraiment surpassé toutes les attentes de tous les fans des Revs, ou bien les observateurs de la MLS. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit aussi bon. D'un autre côté, on avait des petits problèmes du côté des latéraux. On savait, bon, Brandon Bice est un bon joueur, un bon latéral droit, mais il fallait un peu plus. Ben là, on a vu le brio de quelqu'un comme Bruce Arena de replacer l'ailier Tejan Buchanan, l'ailier canadien Tejan Buchanan, en tant que latéral droit. Et pour moi, si jamais j'ai à voir et à nommer un homme des séries pour la révolution dans Nouvelle-Angleterre présentement, ce n'est pas Carles Gil, ce n'est pas Gustavo Bou, ce n'est pas Adam Buxa, ce n'est personne de tout cela. Pour moi, l'homme qui fait tout du côté de la révolution de la Nouvelle-Angleterre, ben c'est Tejan Buchanan. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, Anthony?
Ah oui, quel joueur durant ces playoffs. Finalement, Buchanan a quoi de rendre fiers tous les Canadiens en ce moment, parce que c'est toutes des playoffs qu'il nous fait, et même durant la saison régulière, là, on sentait là, augmenter les performances en crescendo. Et vraiment, non, il est vraiment important maintenant pour les Revs. Il a tassé Braden Bay de l'équation, il a tassé Farrell au centre. Et non, vraiment, j'adore ce que je vois de ce jeune joueur canadien. Beaucoup de potentiel à ce poste, et c'est tout un honneur de Bruce Arena de l'avoir changé, parce que la dernière fois que Bruce Arena avait changé quelqu'un de poste, c'était Zardes en tant que latéral droit. Mais non, je blague, mais
du côté du Galaxy il y a quelques années déjà là. Ouais,
je
effectivement.
Blague, là, mais non, vraiment là, c'est à l'honneur des deux hommes pour Bruce Arena d'avoir tenté et Buchanan d'avoir accepté le défi, vraiment non très important. Et on l'a vu là, il a été un joueur clé dans le match face à Orlando et même face à Philadelphie là. Donc à date, ça serait peut-être le joueur le plus utile des séries.
Ouais, bah effectivement. En tout cas, il va postuler pour cette nomination et pour ce titre-là. Mais en tout cas, on en parlera bien évidemment plus en fin de saison après la Coupe MLS. Peut-être qu'on fera, on parlera un peu des séries et des meilleurs joueurs lors des séries. Mais revenons un peu à ce duel entre la Nouvelle-Angleterre et Orlando. Orlando, de son côté, plusieurs personnes, je regardais un peu tout ce qui a été fait du côté d'Orlando. Déjà, première fois de l'histoire de ce club-là, première fois qui se qualifie pour les séries éliminatoires. Un entraîneur, Oscar Parreira, qui est venu et qui a installé un système et qui a fait en sorte de ramener des joueurs de métier, des joueurs, on va appeler des joueurs besogneux. Pas vraiment beaucoup de joueurs, si tu regardes un peu les Junior Urso, les Oriol Russell, les Robin Jensen, les Antonio Carlos, les Kyle Smith, les Kamal Miller, c'est vraiment des joueurs de devoir, besogneux, qui n'ont pas énormément de talent, mais ils sont capables de rentrer dans le moule qu'a instauré Oscar Parreira. Et après, devant, t'avais quand même des joueurs de gros talent, avec Nani, avec Mauricio Pereira, avec le jeune drafté aussi, qui a tout cassé aussi, Daryl Dickey, et bien évidemment Chris Muller, qui a ses hauts et ses bas, et quand il a ses hauts, il va très bien, et quand il a ses bas, malheureusement, c'est vraiment mauvais. Mais bon, c'est quand même une équipe qui était quand même assez intéressante à voir sur le papier. Puis c'était face à la Nouvelle-Angleterre, sachant que Orlando avait fini quatrième de l'Est, la Nouvelle-Angleterre avait fini huitième, ben cette équipe d'Orlando était favorite dans ce match-là. Est-ce que tu t'attendais à ce que Orlando soit déjoué aussi vite que ça par New England, toi, Anthony?
Non, vraiment, j'avais beaucoup confiance en Orlando City SC. Vraiment, c'est ça. Je m'attendais à une victoire du club de la Floride. Surtout avec Nani, on le sentait d'attaque pour ses playoffs. Et vraiment, non, je donnais pas cher aux Revs, même s'ils avaient fait le coup à l'Union. Je pensais vraiment que c'était une faillite de l'Union et non pas un Revs qui avait été incroyable. Et vraiment, ils m'ont donné tort parce que face à Orlando, ils ont fait la même chose. Mais non, vraiment, je m'attendais à un Orlando un peu plus solide que ça, là.
Oui, effectivement, bon, on a vu déjà, on sentait que New England avait le dessus dès le début du match. Penalty directement à la 17e minute. Ce but, penalty transformé par Carlos Gil. Rien à dire sur ce penalty, hein, penalty indiscutable, n'est-ce pas, Anthony?
Oui, exactement, vraiment. C'est ça, c'était honnêtement. non, le premier penalty, c'est Orlando qui commet la faute. Et quand tu commets une faute aussitôt dans le match, c'est comme si tu débutais à 1-0. Donc, vraiment, parfois Orlando, durant ces playoffs-là, je sais pas si c'est un manque d'expérience, mais on dirait qu'il se sabotait. Après ça, il y a eu Pereira, mais vraiment, dans le premier match, c'est Juan qui a commis un carton rouge. Galesse, c'était pas trop de sa faute, mais il y a eu quand même plusieurs joueurs exclus. Et je pense que quand tu accumules les erreurs et les cartons rouges à un moment donné, c'est un peu normal que tu te qualifies pas là.
Est-ce que tu penses que l'absence de ces joueurs-là, Juan et Pedro Galese, a vraiment joué dans la balance, Anthony? Est-ce que pour toi, c'est l'absence de ces deux joueurs-là a été aussi importante que ça, que si jamais il y avait ces deux joueurs-là ici dans ce match-là, on aurait peut-être vu une autre équipe d'Orlando un peu plus forte?
Ben oui, honnêtement, je pense pas que ça aurait vraiment métamorphosé le match. Je pense que faut donner qu'est-ce qui revient aux Revs. Vraiment, ils ont fait un match pratiquement parfait. Mais je pense que ça aurait peut-être aidé un peu la situation d'Orlando. Juan, il a été un des bons latéraux droits à MLS cette saison. Et quand tu vois un Carl Smith qui est plus habitué d'être défenseur central, ça ment pas. Honnêtement, a dit entre Galessé et Roy, c'est qui que tu choisis?
Ben, je pense que tout le monde le sait que je suis pas du tout fan de Brian Rowe,
Ouais.
vraiment pas fan du tout de Brian Rowe. Et on l'a vu, écoute, je veux pas dire qu'il est fautif sur les buts, mais il a pas fait de miracle dans les buts, hein. Et tandis que Galese nous a habitué, l'octopus, comme on l'appelle, il nous a habitué à des arrêts de fou. Et je suis complètement d'accord avec toi que pour moi, ça a beaucoup joué du côté d'Orlando, parce qu'un Juan à droite, ça aurait été complètement autre chose qu'un Kyle Smith. Tu as parlé du fait que Kyle Smith est défenseur central. Ben, c'est la même chose de l'autre côté, hein. Du côté gauche, on a l'habitude de jouer avec Kamal Miller, qui est aussi d'habitude un défenseur central. Donc ça fait deux défenseurs centraux, tandis que d'habitude, on a toujours un côté extrêmement offensif avec Juan, puis Miller qui est un peu plus en retrait. Ce qui fait que c'est intéressant du côté d'Orlando, du côté des latéraux, parce que c'est un peu débalancé, puis ça peut créer en fait que Juan joue presque comme un ailier. Ben, tu avais plus ce côté-là du côté d'Orlando. Bref, c'est sûr que Orlando aurait pu faire mieux avec ces deux joueurs-là, mais je pense que le résultat n'aurait rien changé.
Ouais,
Parce que du
exact.
côté du Révolution de la Nouvelle-Angleterre, tactiquement, Bruce Arena a donné une leçon de coaching à Oscar Parreira. Pourquoi il a donné une leçon de coaching? Parce que indépendamment des absents du côté d'Orlando, on n'a pas senti Orlando, à part sur peut-être une vingtaine ou une trentaine de minutes sur tout le match, on n'a pas senti Orlando vraiment au-dessus de cette équipe du Révolution. Le Révolution a été très très bon en marquant deux buts très très vite. Bon, finalement, il y a eu un but d'Orlando qui est venu à d'Urso à la 33e minute avec deux déviations, faut pas l'oublier, non? Et à ce moment-là, on s'est dit, OK, ben Orlando est capable de revenir dans le match. Et ils ont failli revenir dans le match parce que, bon, il y a eu le carton rouge de Mauricio Pereira, on va revenir là-dessus plus tard. Mais après, il y a eu un penalty à la 74e minute et Nani qui manque le penalty. On ne va pas dire que Nani manque, je veux plus dire que Matt Turner sauve ce penalty parce que les penalties étaient pas mal tirés de la part de Nani. Et Matt Turner a choisi le bon côté, a fait l'extension qu'il fallait faire pour pouvoir sauver ce tir-là et sortir le tir de penalty. Donc pour moi, c'est excellent de la part de Matt Turner. Et puis après, écoute, Orlando essaye de pousser, puis c'est sur une autre contre-attaque que Gustavo Bou marque son deuxième but du match, le troisième but de New England, puis le match est plié. Mais pour moi, le tournant du match, c'est Mauricio Pereira, parce que après la mi-temps, tu as eu un bon 20 minutes, 20-25 minutes, où Orlando est bien au-dessus de New England. C'est là où tout peut changer. Et Mauricio Pereira, aucune idée pourquoi il tacle comme ça. Les crampons complètement au-dessus du sol. Il va et il percute le joueur adverse. Écoute, c'est, pour moi, c'est rouge à chaque minute, chaque seconde, chaque heure de la vie. C'est pas normal que ce joueur-là ne soit pas exclu. Il a été exclu, c'est une bonne chose. Je m'attends à encore des répercussions, peut-être 2 ou 3 matchs supplémentaires pour l'année prochaine pour ce joueur-là, qui est tout un joueur, hein, excellent joueur technique, magnifique, mais là, il a eu, comme on dit, une crampe au cerveau, n'est-ce pas?
Oui, exactement. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi tu fais ça quand ton équipe perd un but. Et c'est exactement le genre d'action que je dis qu'Orlando ne s'est pas aidé durant les playoffs. Apparemment, Rouen, lors du premier match face... c'est ça, Rouen, lors du premier match, le carton rouge, il aurait pu l'éviter. Là, c'est Pereira qui fait un peu encore plus violent. Et tu as besoin de ce joueur-là pour espérer revenir. Et non, il a plombé par 75% des chances d'Orlando d'espérer égaliser. Et Nani a failli le sauver, mais là, je pense que l'élimination d'Orlando est en grande partie causé par Pereira aujourd'hui.
Ouais, effectivement. En tout cas, c'était une très, très belle performance de la part du Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Il ne faut pas oublier aussi, si tu regardes un peu le banc de la Nouvelle-Angleterre, c'est quand même intéressant. Juste regarde un peu le banc. Tu as Brandon Bye, qui est quand même un bon latéral droit. Tu as Lee Nguyen, qui est quand même un très bon milieu créatif, même si je ne pense pas qu'il est capable de jouer des 90 minutes, mais c'est quand même un bon joueur. T'as un défenseur milieu défensif ou milieu relayeur avec Kellen Rowe, qui est un bon milieu de MLS. T'as un autre joueur de rotation avec Tommy McNamara. T'as un défenseur central d'expérience avec Michael Mancien. T'as un ailier Kekuta Mané qui a fait je sais pas combien d'équipes MLS et qui est capable de ramener un peu des flamèches. Et t'as le petit jeune Justin Renix qui peut être quand même assez intéressant. Est-ce que tu regardes un peu ce banc-là et tu te dis, bah, écoute, New England a quand même de la qualité. Il y a de la qualité dans cette équipe.
Oui, vraiment. Et non, c'est ça. Ils ont un très beau banc. Tu regardes les joueurs. C'est des joueurs qui pourraient être partants dans quand même quelques-unes équipes de MLS. Là. Brandon Bye, je pense que la majorité des équipes l'aimeraient dans leur équipe. Nguyen, comme tu dis, il n'a pas 90 minutes dans les jambes, mais il est capable de te faire des chefs-d'œuvre quand même. Kellen Rowe, on l'a un peu oublié ces dernières années, mais il commence à être de retour en forme. Donc oui, c'est vraiment des joueurs qui peuvent faire la différence aux Reds et surtout amener de la compétition pour les joueurs partants. Et je pense que ça fait la différence parce que les joueurs partants, ils ne peuvent pas se permettre là, de rater les performances. Donc, je pense que ça l'ajoute au jeu des Reds, oui, par leur talent, mais aussi par la compétition qu'ils apportent à l'équipe, aux titulaires.
Exactement. Et du côté d'Orlando, est-ce que tu penses que dans ce match-là, il y a eu beaucoup de pression mise par les joueurs d'Orlando sur l'arbitre? Il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux qui m'ont dit, bah, écoute, c'est pas normal, à un moment donné, ils mettent tellement de pression, c'est vraiment dégueulasse à voir, la pression, venir se plaindre, toujours chialer, se plaindre. Est-ce que pour toi, l'arbitre aurait dû, à un moment donné, un peu montrer un peu plus de charisme, donner un peu un carton jaune pour que tous ces joueurs-là un peu se calment? Parce que j'ai comme l'impression que cette équipe d'Orlando était tellement préoccupée à vouloir engueuler l'arbitre qu'ils oubliaient de jouer. Et d'un autre côté, l'arbitre, on sentait que... Bon, il a pris de très bonnes décisions, l'arbitre, durant le match. Je pense qu'il n'a pas fait de grosses erreurs durant ce match-là. Mais je pense qu'il aurait pu très bien pu reprendre le contrôle du match. Et j'ai senti qu'à un moment donné, il a un peu perdu le contrôle. À chaque fois qu'il sifflait quelque chose, il y avait 10 joueurs d'Orlando qui venaient dans sa face. Est-ce que tu penses que l'arbitre aurait pu un peu gérer ça d'une manière différente?
Ouais, ben c'est sûr que rendu, c'est lui qui décide. S'il est capable de bien gérer cette pression-là, ben c'est tant mieux pour lui. Mais c'est sûr que... moi, personnellement, si j'avais été lui, là, j'aurais donné un petit carton jaune assez rapidement pour faire taire ça. Je pense que c'était un peu dans la stratégie d'Orlando. Et je pense que, ouais, honnêtement, j'aurais agi, mais tu sais, c'est lui le pire s'il n'a pas agi. Là.
Ouais, exactement. C'est lui qui perd, comme on le dit. Après, d'un autre côté, Anthony, pense, il y a eu tout ça, mais on a Dom Dwyer qui était même pas là et qui est blessé. Tu te rends compte, il y avait Dom Dwyer en plus? Oh, je sais pas ce que ça aurait fait, là. Je sais pas ce que ça
Ah
aurait fait,
là,
mais
ça aurait
on
été.
aurait eu beaucoup plus de cartons rouges, je pense.
Ouais, exact. Ça l'a été trop là, avec Dwyer
Exactement, ça aurait été la fin du monde. Mais parlons un peu d'Orlando City et le futur d'Orlando City, comme on a fait un peu avec Nashville. Pour toi, quels sont les renforts que cette équipe devrait avoir? Quels sont les joueurs qui devraient quitter le navire? Où est-ce que Oscar Parreira peut encore améliorer cette équipe d'Orlando? Déjà, sachant que aussi c'est une saison extrêmement réussie pour cette équipe-là, comme on l'a dit, qualifiée pour la
gardien.
première fois de son histoire pour les séries éliminatoires. Il passe le premier tour en éliminant une très très bonne équipe de New York City FC. C'est quand même une saison réussie pour Orlando. Mais qu'est-ce que tu proposerais comme changement, toi, Anthony?
Ben, c'est ça. Premièrement, c'est sûr qu'un meilleur deuxième gardien, ça pourrait aider les choses. Sinon, c'est vraiment plus au niveau de la profondeur. Je pense que justement, en ayant peut-être un meilleur latéral droit substitut au lieu de Carl Smith qui est plus central, c'est ça. Peut-être au niveau des latéraux, pardon. Mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je pense que honnêtement, ça a été un mauvais match d'Orlando. Mais il aurait pu se rendre beaucoup plus loin là en ayant peut-être mieux fait durant les playoffs. Mais durant la saison régulière, on les sentait confiants et non, ça allait bien là. Donc vraiment, faut pas trop bouger du côté d'Orlando là.
Bah écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il faut beaucoup bouger, mais il y a quelques petites choses que j'aimerais apporter. Peut-être un autre le défenseur latéral gauche surtout, parce que Kamal Miller c'est un bon défenseur, mais c'est plus un défenseur central à mon avis, capable de jouer le rôle en défenseur la gauche d'une bonne façon. Mais j'aimerais avoir peut-être un autre latéral qui est un peu plus offensif à gauche. Ça c'est quelque chose peut-être quelqu'un qui il pourrait faire ça en rotation des fois quelqu'un de offensif, des fois quelqu'un de défensif avec Kamal Miller. Je pense aussi qu'il lui faut un peu plus de qualité au milieu de terrain défensif. Junior Urso, Auriel Rossell, c'est de bons joueurs de métier, mais je pense qu'ajouter un joueur un peu d'un autre niveau pourrait beaucoup aider les deux maestros devant, que ce soit Pereira ou Nani. Et je pense qu'à ce moment-là, ça devrait être bon. Après, je pense qu'il faudrait se débarrasser de quelqu'un comme Dom Dwyer, qui maintenant sert plus à grand-chose avec Daryl Dike qui est là, en sachant que Benji Mitchell est sur le banc aussi, qui est capable de jouer sur l'aile, même en attaque. On a même un Tiesho Akindele qui peut faire la job. Donc, je pense que c'est le moment de se débarrasser de Dom Dwyer, sachant qu'il a eu tellement de blessures durant sa carrière, ce joueur-là. Donc, je pense qu'il y a des petits changements à faire, mais la base, comme tu l'as dit, elle est bien. Bel et bien, là, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, voilà pour ce qui est d'Orlando. Après, je veux. On va un peu parler un peu de cette demi-finale. En fait, non, on en parlera la semaine prochaine pour la demi-finale, la finale de conférence Est entre les Révolutions de la Nouvelle-Angleterre et le Columbus Crew. On pourra en parler peut-être la semaine prochaine. Mais je veux parler un peu d'une dernière chose qui vient tout juste de se passer. Je sais pas si tu as remarqué un peu, Anthony, dans l'actualité de la MLS, le Dynamo de Houston qui a changé son logo et qui a changé complètement son identité. Un logo, on dirait plus une équipe de baseball qu'autre chose, mais quand même assez intéressant. J'ai bien aimé, moi, ce nouveau logo, même si, comme j'ai dit, pour moi, ça, je vois beaucoup de similarités avec un logo d'équipe de baseball. T'as pensé quoi de ce logo-là?
Ouais, ben je pense que leur premier but en changeant le logo, c'est aussi de peut-être avoir le même logo pour l'équipe masculine et féminine.
Ah,
Donc,
proche, en tout cas.
ouais, c'est ça, proche. Pour le HED, faire vraiment une marque commune pour les deux clubs. C'est sûr, c'est un logo assez simple à mon goût, mais c'est un peu dans la tendance actuelle des logos. Souvent, les nouveaux logos sont assez épurés. Il y a peut-être juste la petite éclair que je comprends pas trop, mais moi ça me va, honnêtement. J'ai pas été choqué par le logo.
En fait, si tu regardes un peu le logo du Dynamo de Houston, il y a le petit éclair en bas, puis tu as le logo du Dash qui est plus un H en orange et bleu et avec une étoile en bas. Aucune idée pourquoi il y a chez les hommes, il y a l'éclair et chez les femmes, l'étoile. Aucune idée c'est quoi le concept derrière là, mais je suis sûr que si on cherche, on peut le voir. Mais quand même, un logo un peu plus épuré, un peu, on va dire, un logo quand même qui fait 2020, beaucoup plus ouais. Vraiment un logo moderne que j'aime bien. Donc voilà pour les nouvelles et l'actualité de la MLS, parler un peu de ces playoffs là. C'est sûr que les séries de la MLS, bah, ça continue très très vite. On a deux matchs qui arrivent pour du côté de l'Ouest avec Seattle qui va recevoir le FC Dallas. Ça va être le 1er décembre à 9h30 le soir. Et après, tu as le mercredi, le 2 décembre, à 9h le soir, heure du Québec, le Sporting Kansas City contre Minnesota United. Deux duels très, très, très appétissants qu'on va pouvoir vous décrypter pour la semaine prochaine, bien évidemment. Donc voilà, ça va être tout pour cet épisode de Culture Soccer, le podcast. Anthony, merci d'avoir pris le temps.
Merci à toi, Adi. Ça a été une belle soirée. Une belle journée également. Peut-être pas la journée la plus excitante en MLS. On a déjà eu des matchs encore plus fous. Mais honnêtement, ça a quand même été une belle journée. Donc, merci à toi aussi pour le podcast.
Parfait. Donc, à la semaine prochaine, mes chers auditeurs, pour un nouvel épisode de Culture Soccer.